Ici Annie Quentin. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Claire et Andréanne Fortin.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre co-animatrice Mélanie Boutin.
Bonjour.
Bonjour aussi à nos invités, Isabelle Claire, professeure au département d'information et de communication à l'Université Laval et directrice du groupe Rédigé.
Bonjour.
Et Andréanne Fortin, étudiante à la maîtrise en communication publique sous la direction d'Isabelle Claire.
Oui, bonjour.
Isabelle, Andréanne, vous êtes toutes les deux spécialistes en rédactologie, une discipline peu connue, mais qui, vous me le direz, Isabelle, n'est pas une pratique si occulte que ça.
Tout à fait. C'est pas si sorcier. En fait, la rédactologie est à la rédaction professionnelle ce que la traductologie est à la traduction, c'est-à-dire une discipline qui étudie les pratiques dans leur contexte professionnel. Elle s'intéresse aussi bien à ceux qui écrivent qu'à leur production et à leurs lecteurs. On a un rédactologue célèbre qui s'appelle Bertrand Labasse, pour qui la définition exacte, c'est que la rédactologie couvre l'ensemble des processus impliqués dans la production des écrits professionnels et leur adéquation au destinataire. Dans nos mots à nous, dans le groupe Rédigé, on dit en fait que la visée ultime de la rédactologie, c'est vraiment de savoir ce qui contribue à rendre un texte compréhensible, dans le but de pouvoir enseigner une démarche de rédaction qui assure la transmission efficace des messages. Et pour y arriver, nous cherchons à identifier les problèmes qui nuisent à la compréhension en lecture, en utilisant différentes approches d'analyse. Alors, on fait des analyses expertes, des analyses de la lisibilité automatisée, des tests utilisateurs auprès de vrais utilisateurs. On croise toutes ces données et on essaie de dégager, de faire des diagnostics pour voir quels sont les problèmes et évidemment trouver des solutions pour améliorer l'efficacité communicationnelle. Donc, c'est vraiment ça, la rédactologie. C'est une discipline assez jeune, qui existe depuis peut-être une trentaine d'années. Elle a des ancêtres, bien évidemment. La rhétorique, c'était déjà quand même du travail.
Mais c'est très concret et ancré dans la vraie vie, si je peux dire ainsi. Là, votre recherche que vous faites, c'est vraiment un impact direct sur le citoyen?
Oui, absolument. C'est clair, c'est vraiment comme une espèce de boucle. On est sur le terrain, on voit des problèmes, ça devient finalement notre terrain d'exploration dans les recherches. On se dit, mon Dieu, ça c'est une belle problématique, on pourrait vraiment la travailler. Là, on se monte un protocole de recherche, on va chercher des participants, on analyse, on trouve quelque chose. Et quand on arrive finalement à définir un peu mieux le problème, à trouver ses dimensions, ses indicateurs, eh bien, ces résultats-là, on peut les redonner, en fait, sur le terrain. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on résout des problèmes réels, mais par des recherches approfondies. On va lire beaucoup de choses, comme c'est pluridisciplinaire, on emprunte à la psychologie cognitive, on emprunte à la didactique, à la linguistique, aux sciences de l'information, on va chercher dans le design beaucoup aussi. Donc, comme on emprunte à beaucoup, en fait, on élargit la lecture, la compréhension qu'on a d'un phénomène. Et ça a permis d'être beaucoup plus nuancé dans les recommandations qu'on fait, puis ça permet de les appuyer, de les étayer. Et c'est pour ça, par exemple, Annie demandait tantôt quel genre de recherche vous faites. Par exemple, on sait que le storytelling, la mise en récit, facilite la compréhension. Donc, quand on a quelque chose de difficile à faire passer, on peut utiliser, ça a été utilisé évidemment en marketing, en politique, en science, hein, la vulgarisation passe souvent par la mise en récit dans le journalisme et tout. Et par exemple, j'ai une étudiante qui a décidé qu'elle allait vérifier si en utilisant une mise en récit plutôt qu'un texte informatif auprès de personnes autistes, si les personnes autistes en question comprendraient mieux le document où l'information est exactement la même. Donc, elle a comparé un document informatif avec un document qui présente la même information, mais qui est narratif, qui est un récit. Et ce qu'elle essaye de voir, c'est si les gens comprennent mieux ce qu'ils ont à comprendre à travers le récit. Donc, tout ce qu'on utilise, c'est toujours dans le but de trouver une meilleure façon de transmettre de l'information.
Mais comment devient-on rédactologue?
Andréane, toi, tu as un cheminement particulier, vas-y.
Bien, ça arrive souvent qu'on ait des cheminements particuliers dans le domaine de la rédaction professionnelle, puis aussi en rédactologie, évidemment. Moi, ma formation première, elle est en histoire. J'étais prof d'histoire au collégial pendant quelques années, puis finalement, je me suis redirigée vers la rédaction professionnelle. Je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par la production écrite de mes étudiants, par la manière qui traitait l'information que je leur transmettais, que je leur partageais. Puis aussi, en même temps, ben, j'étais aussi intéressée par moi, ma production écrite. Comment je peux transmettre de l'information pour que ce soit le plus clair et efficace possible, pour qu'elle devienne limpide, cette information-là. Oui, c'est un intérêt là, pour le traitement de l'information, puis aussi pour le partage d'information.
Et vous, Isabelle, comment en êtes-vous venue à la rédactologie?
Eh bien, tout le monde fait des farces avec mon nom. Je m'appelle Isabelle Claire. Et tout le monde disait « Ah, c'est Claire, c'est Isabelle Claire ». Mais c'est vrai que depuis très jeune, j'ai toujours eu le goût des mots. Que ce soit les mots pour écrire, les mots à lire, les mots à partager. J'ai toujours aimé d'ailleurs l'enseignement. J'ai toujours aimé partager mes passions. J'ai toujours aimé travailler en équipe. Et en fait, je suis tombée dans la littérature parce que c'était vraiment la littérature qui m'attirait. J'ai fait toutes mes études en littérature, mais je travaillais parallèlement comme pigiste. Et comme pigiste, évidemment, je n'étais pas une grande écrivaine. J'étais étudiante en littérature. Ce n'était pas la même chose. Et donc, j'ai écrit beaucoup de choses comme un écrivain public dans le temps, en fait. J'ai souvent fait des piges pour aider les uns et les autres à écrire quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à écrire. J'ai fait des petits contrats de gauche et de droite. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, que c'était un tel besoin qu'il fallait vraiment monter de la formation. À Sherbrooke, ils avaient commencé à monter un programme de formation professionnelle depuis une dizaine d'années. Et c'est là que l'Université Laval, la faculté des lettres à l'époque, là, qui est notre faculté actuelle des lettres et des sciences humaines, notre faculté m'a engagée pour monter un programme de rédaction. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était une passion pour les mots. Et vouloir, évidemment, c'est qu'enseigner l'écriture romanesque, ou en tout cas l'écriture de fiction, ça n'a rien à voir avec l'écriture professionnelle, puisque un écrivain, il se lève pour parler d'une nécessité intérieure. Il a un message qui lui est propre. Comme rédacteur, on est quelqu'un de très humble, on n'a pas un gros ego du tout, parce qu'en fait, on est vraiment là au service d'un message que quelqu'un nous demande de passer. Et en même temps, on doit avoir un art fou de l'empathie, on doit être quelqu'un de très empathique, parce qu'on doit constamment se mettre dans la peau de celui qui reçoit le message. Donc, c'est ça qui est merveilleux en rédaction professionnelle, c'est cette grande joie qu'on a de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre. Et quand quelqu'un nous dit « Mais c'est limpide ce que tu expliques, c'est tout !» Mais c'est ça, c'est notre bonheur à nous, notre bénéfice, c'est quand les gens comprennent et pensent que c'est tout simple. Ton écriture est limpide, ton écriture est fluide. Mais oui, mais on travaille comme des malades pour en arriver à ça. L'image que je donne souvent à des étudiants, c'est imaginer la ballerine, les heures et les heures et les heures de pratique et les pieds complètement tordus dans les chaussons, puis vous la voyez s'envoler dans les airs toute légère. Ben, on ne voit pas tout le travail de sueur qu'il y a derrière. Ben, le texte, on doit travailler très fort pour enlever le maximum d'effort au lecteur. C'est au rédacteur de faire l'effort vraiment pour le diminuer du côté du lecteur. C'est vraiment ça notre travail. Puis quand on y arrive, c'est un bonheur extraordinaire.
Vous venez d'évoquer, Isabelle, vos étudiants, les images que vous créez pour eux. Et je me demande comment on peut enseigner la rédactologie. Comment transmettez-vous ces compétences et ce savoir qui est aussi très sensible?
En fait, je pense que la meilleure façon de l'enseigner, c'est d'être extrêmement imagé. Par exemple, on sait, les connaissances scientifiques nous disent qu'il faut absolument être capable de rejoindre les connaissances antérieures du destinataire. Comme on s'adresse, nous, au grand public, c'est toujours très difficile de savoir parce que les communications ont tendance à segmenter les publics en disant, bon, on écrit, bon. Mais nous, quand on écrit au grand public, par exemple, qui sont les citoyens du Québec, on les a tous mm-hmm. dedans, les plus érudits, les moins érudits, ceux qui sont malades. Donc, on a toutes sortes de personnes. Et quand on doit essayer d'expliquer, par exemple, à des étudiants qu'il faut qu'ils accrochent, en fait, leur nouveau connu, c'est-à-dire l'inconnu de la personne à qui il s'adresse. Mais il faut que cet inconnu s'accroche à un connu existant et il faut faire image. Donc, par exemple, je vous le fais, je vous dis, connaissez-vous Corinne Abile?
Non.
Ben non, parce que c'est quelqu'un que vous pouvez difficilement connaître parce que... Mais si je vous dis littérature, Suisse, 20e siècle, Suisse romande ou Suisse francophone, et si je vous dis au 20e siècle... En Suisse romande, en littérature, Corinne Abile a mérité un prix extraordinaire pour la nouvelle que ta-ta-ta-ta, je vais vous parler. Donc, vous voyez que j'accroche, en fait, dans votre cerveau, il y a toutes sortes de connaissances que vous avez, la littérature, le 20e siècle, la Suisse romande. Si c'est un peu compliqué, romande, je vais dire francophone. Et puis là, je vous ai placé des morceaux, et là, vous êtes capable d'entendre Corinne Abile, vous ne la connaissiez pas, mais là, ça ne vous pose aucun problème. Donc, enseigner la rédaction, c'est montrer des exemples comme ça qui sont tellement clairs qu'après ça, on voit bien qu'il faut s'accrocher aux schémas mentaux existants chez les gens. Là. Donc, je pense que c'est ça. Puis, dans la pratique, il faut toujours avoir des mandats réels. À l'Université Laval, par exemple, les étudiants d'Andréane, à l'heure actuelle, sont allés faire le procès-verbal du conseil. Ben, parle-en, tu donnes un cours en rédaction administrative.
Oui, ben c'est ça. J'ai commencé la session avec mes étudiants en leur faisant faire le procès-verbal de la réunion du dernier conseil facultaire, de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, là, c'est pratique avec Zoom. Ça s'est super bien passé. On peut enregistrer la réunion. Donc là, j'ai pu diffuser cette réunion-là en classe et les étudiants avaient comme premier travail de rédiger le procès-verbal. Ça a vraiment été une pratique porteuse pour eux. Ils se doutaient pas à quel point c'était du travail. Puis si on était juste resté dans la théorie, si on était juste resté dans la lecture à propos de la rédaction de procès-verbal, ben ça aurait pas été aussi, ça aurait pas fait autant image en fait pour eux.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que s'ils se confrontent à des réalités aussi complexes que ça, ils n'auront pas de difficulté par la suite de s'adapter à toutes sortes de façons de faire. Mais s'ils regardent juste la liste d'épiceries qu'on voit dans un manuel, ils auront beaucoup plus de difficultés à le réussir. Donc, je crois que l'enseignement de la rédaction professionnelle passe beaucoup par la mise en situation réelle.
Et qui devient une recherche empirique, finalement, qui se construit au fil de la formation et après ça, au fil des travaux et des différents projets. Là. En vous parlant, on se rend compte combien l'écriture est importante dans toutes nos actions, dans toute notre vie. Et il y a quelque chose qui est ressorti de nos rencontres préliminaires, de ce que vous venez de dire au cours des dernières minutes aussi, c'était l'importance de former l'administration publique à l'écriture. Alors, vos travaux tournent beaucoup autour de ça. Comment on peut faire pour former l'administration publique à l'écriture?
Ben, c'est ça, comme tu dis, ça passe par plusieurs chemins. Donc, d'une part, évidemment, ça passe par le premier cycle, comme on vient d'expliquer. Donc, il y a le cours de rédaction administrative qui vient former des futurs rédacteurs qui vont sûrement travailler pour la plupart dans des organismes. Sinon, bon, à la formation continue, c'est ça, à la direction de la formation continue, on monte de la formation. Formation en rédaction stratégique pour aider les travailleurs de l'État, les rédacteurs fonctionnels, à développer des bonnes habitudes puis des connaissances en rédaction stratégique. Sinon, avec Isabelle, on monte aussi une formation aussi pour l'Académie de la transformation numérique.
Oui, et là, pour l'ATN, c'est vraiment sur la rédaction numérique. Donc, pour expliquer en fait en quoi la rédaction numérique, qu'est-ce qui reste, tout ce qu'on a appris dans l'écriture, la démarche de rédaction, qu'est-ce qui reste de l'imprimé, mais qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos habitudes d'écriture quand on passe au numérique. Donc, on explique là vraiment les changements que ça opère pour le rédacteur. On ne peut plus travailler de la même façon, puisque là, on arrive à une certaine forme de dématérialisation du langage. Et donc, ça change beaucoup les habitudes d'écriture. Donc, on donne cette formation-là. Pour revenir à la question de Dani, je dirais aussi que l'administration publique nous avait demandé dans les années 2000 déjà de faire des grandes analyses, des rapports de recommandations, de poser des diagnostics sur de nombreux documents. Et ça, c'était transversal, c'était pour tous les ministères et organismes. On a fait pendant plusieurs années des rapports de recommandations sur des lettres, sur des formulaires, sur des sites web, sur toutes sortes de choses. L'ensemble des rapports de recommandations ont été validés par le personnel de l'administration publique et toutes ces recommandations sont devenues la table des matières d'un livre qu'on a écrit avec l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française, et pour les publications du Québec. Et c'était De la lettre à la page web, qui était un ouvrage, un manuel destiné aux fonctionnaires pour être capable d'écrire de façon claire et simple, mais justement pas recette de cuisine, mais de façon beaucoup plus précise et nuancée. Alors, grâce à ça, maintenant, les organismes redemandent qu'on aille les aider à réécrire, mais ils nous demandent beaucoup de coaching. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que le groupe rédigé vienne, leur fasse des diagnostics, leur donne des recommandations, les aide à faire une partie de leur travail, puis qu'on forme, en fait, les gens qui, une fois qu'on est parti, vont pouvoir continuer de travailler à l'interne. Donc, c'est une des grandes choses qu'on fait aussi au groupe rédigé, c'est de faire du transfert d'expertise. On donne de la formation, on fait de la sensibilisation, on fait du coaching individualisé. Tout ça, on le fait pour aider, en fait, les différents ministères à s'approprier, en fait, ces techniques de rédaction et que les gens aussi sachent pourquoi on fait une chose plutôt qu'une autre, que ça repose sur des vraies recherches, que c'est pas pour rien. On doit dire ça comme ça plutôt comme ça parce que ça a été analysé, ça a été vu. Donc, on a plusieurs manières, là, comme vous le voyez, là, il y a plusieurs façons de les aider. Ils viennent nous voir à l'université, on va les voir chez eux, on fait des manuels, on donne des formations de plus en plus à distance. Je pense qu'il y a vraiment un grand mouvement.
Un mouvement qui se prolonge, j'imagine, aussi jusque dans l'engagement citoyen.
Oui, mais vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à pouvoir participer. S'ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'on leur transmet, ils n'ont pas de voix. Ils n'ont plus de voix. Donc, en fait, c'est vraiment tout faire pour que les gens ne soient pas écartés puis que ce ne soit pas qu'un groupe de privilégiés qui ait accès, finalement, aux mots, au pouvoir, puis qui rentre dans les cercles fermés. Donc, en fait, c'est vraiment de la démocratisation du savoir, absolument.
Isabelle Claire, Andréane Fortin, merci beaucoup pour cet entretien qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la rédactologie. Nous vous retrouverons, oui, dans le prochain épisode pour entrer cette fois dans les coulisses de vos projets de recherche. À plus tard.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.